Ardigan. Ardigan présente Pierre Bordage. Arcane, tome 2, la résurrection. Chapitre 1. Combleur. À ceux qui pensent que le bagne des profondeurs n'est qu'une légende, une fable destinée à effrayer les enfants et les maintenir dans le droit chemin, je dirais que j'ai rencontré un homme qui prétendait exercer la fonction de vérificateur dans les fondations d'Arcane. Il m'assurait que, sans la besogne ingrate des prisonniers des fonds, la cité se serait depuis longtemps affaissée sous son poids. Je n'ai conçu aucun doute sur ces dires, qui confirmaient mes propres conclusions. Que les sceptiques sachent donc qu'il existe une population misérable de proscrits, des combleurs, qui permet à l'orgueilleuse cité de nos pères de défier les temps. Journal anonyme d'un explorateur vertical, bibliothèque privée de la Maison de l'Ours, Arcane. Il fallait moins d'une journée à la bourbe pour absorber un bloc de pierre de plusieurs toises de longueur et de hauteur. L'eau disparaissait un temps sous les amoncellements de roches prélevées dans les mines, puis, silencieusement, sournoisement, inexorablement, remontait des profondeurs pour tout recouvrir, anéantissant le travail exténuant de la veille. Les combleurs ne pouvaient s'empêcher de ressentir du découragement lorsque, après une courte période de repos, il découvrait la nappe immobile d'où émergeaient, île dérisoire, les échines arrondies ou brisées de quelques blocs. Même s'il n'avait aucune chance de sortir vivant du dédale des souterrains, des citernes, des égouts, des piliers, des murs de fondation, il travaillait comme des bêtes de somme afin d'empêcher l'affaissement de la cité, édifiée sur un sol marécageux de plus en plus spongieux, éclairé par les flammes dansantes des torches et la lumière blafarde émanant des roches lumes. Une couleur laiteuse, uniforme, effaçait peu à peu leurs iris et leur permettait de distinguer les formes dans les ténèbres profondes. Comme ils perdaient rapidement leurs vêtements et leurs chaussures, rongés par l'humidité ambiante et déchirés par les aspérités rocheuses, et qu'ils prenaient l'habitude de déambuler entièrement nus, leur corps s'endurcissait, leur peau s'épaississait. Les ongles de leurs pieds et de leurs mains devenaient aussi durs et coupants que des griffes. Lorsqu'ils se contemplaient dans une flaque ou sur la surface humide d'une roche, Mathéo avait l'impression de ressembler davantage à un animal qu'à un homme. Avec ses pommettes et ses arcades sourcilières saillantes, avec ses rides profondes et ses cicatrices boursouflées, avec sa barbe et ses cheveux emmêlés collés par la crasse, son visage évoquait l'un de ces masques primitifs qui ornaient les salles de réception des familles gouvernantes. Il avait compté les jours, les mois, au début de sa réclusion, ruminant sa vengeance contre ceux qui avaient manipulé le Conseil des Sept pour obtenir son bannissement. Puis, comprenant qu'il lui serait impossible de s'évader de l'enfer des fonds, il avait peu à peu perdu tout espoir, tout orgueil, toute notion du temps. Sa mémoire s'estompait également. Il ne restait plus de Mathéo du Drac, premier héritier de la maison la plus prestigieuse des Hauts, qu'une créature reliée à l'existence par le seul instinct de survie. Nul besoin de garde-chiourme dans les fonds, dont les issues étaient obstruées par d'imposantes grilles. On distribuait la nourriture aux combleurs par des puits, un peu comme on jette des restes à la volaille dans un poulailler. Les détenus anciens se chargeaient d'expliquer aux nouveaux arrivants, précipités dans le bagne par un système de tubes pentus et glissants, jusque dans une citerne désaffectée surnommée « Porte de l'Enfer », en quoi consistait le travail. Les uns taillant des blocs de pierre dans les parois des galeries minières, que les autres acheminaient à l'aide de chariots en fer jusqu'aux terres spongieuses dans lesquelles s'enfonçait la cité. Les marqueurs tracés sur l'un des piliers de soutènement indiquait la progression de la